Prenons nos places. Nous prenons nos places. Salut ton voisin, salut ta voisine. Comment ça va, voisin? Comment ça va, voisine? Comment ça va la maison? S'il est marié, comment va madame? Comment vont les enfants? S'il est pasteur, comment va l'église? S'il est responsable, comment va ton pasteur et comment va ton église? Amen. Il y a bientôt 50 jours, nous avons introduit un nouveau thème, les ministères et ces réalités. Et en introduisant ces thèmes, nous avons dit certaines choses importantes au début. La première des choses que nous avons mentionnées, nous avons dit que cet enseignement visait trois publics cibles. Le premier public, ce sont des personnes pas encore appelé au ministère, mais susceptible de l'être, parce que notre thème, c'est le ministère et ses réalités. Deuxième public cible, ce sont les personnes qui sont en train de faire les premiers pas dans les ministères et qui en découvrent les aléas, ainsi que toutes les choses cachées qu'ils ne connaissaient pas forcément au départ. Mais troisième public cible, nous avons dit, c'était des personnes qui ont déjà eu à répondre à l'appel et qui ont un certain vécu, une certaine expérience des choses de Dieu. Deuxième des choses que nous avons mentionnées, nous avons dit que pour ces trois publics, il y avait certains objectifs et même des objectifs différents. Le premier objectif, nous avons dit, c'était éclairer d'avance, c'est-à-dire donner une quantité ainsi qu'une qualité d'information nécessaire. Car plusieurs entrent dans les ministères comme des ignorants, ayant soit peu ou pas d'informations concernant cette noble vocation. Écrivant à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul leur dira dans 1 Corinthiens 12 au verset 1, il dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et cette église, elle était détentrice des dons spirituels qui étaient exercés, mais ils ne connaissaient pas. Il a dû leur enseigner comment ces dons se présentent. Et même dans 1 Corinthiens 14, tout un chapitre, du premier, je pense, au 31e verset, il leur montre comment ça s'exerce, combien c'est important. Dans la version française courante, il dit, je veux que vous connaissiez la vérité à propos des dons. Et moi, je peux paraphraser, j'aimerais que vous connaissiez la vérité à propos du ministère. Dans la version, le semeur, il est dit, j'aimerais que vous soyez bien au clair concernant les ministères. Et je vais aussi paraphraser, j'aimerais que nous soyons au clair concernant les ministères. Nous avons dit que la connaissance était d'une grande importance, car elle jouait deux rôles principaux. Le premier rôle de la connaissance, c'est qu'elle orientait et gouvernait l'expérience. Elle oriente et gouverne l'expérience. Mais deuxième rôle, nous avons dit que l'expérience facilitait, plutôt la connaissance facilitait l'expérience. Elle vous aide à aller presque comme dans un terrain connu. Deuxième objectif de cet enseignement ou cette série, c'est prévenir les débutants dans les ministères sur certaines choses, afin que lorsqu'elles arrivent ou qu'ils vont les rencontrer, qu'ils ne soient pas surpris. Certains rentrent comme des novices et ils rencontrent certaines réalités, ils sont surpris, choqués et des fois ils veulent lâcher prise. Je fais partie d'une communauté, celle des assemblées de Dieu, et je pense ne pas avoir été suffisamment préparé à vivre certaines choses. En 93, il y a 20 ans, la première fois que je rejoins l'Assemblée générale de notre communauté, ces vieux pasteurs, je les voyais de temps en temps dans des grandes réunions, ils exerçaient des dons spirituels. Je pensais que tous ils étaient des saints avec S majuscule. Et ils avaient des auréoles sur la tête. Jusqu'à ce que j'atterrisse à Kassavub et j'entre comme ça, un vieux, je ne veux pas citer son nom, la soixantaine, il me salue, il dit colonie. Moi, on est colonie. J'ai dit, papa, ma kambabikolo, ça n'a bien colonie. J'ai dit, oh. Papa, ma kambabi, n'a pas de colonie. Et puis il me regarde, il dit, Nengnaïb, ça y a assemblé à l'époque au Cadez. Cadez est tombé dans ma kilami balé. Il y a Yesu na moi dans mon Congo. Je suis resté là, je dis, mon zango, tout ça, dit ça. Je découvre des réalités. Et des aînés que j'accompagnais, qui faisaient partie de notre église, dès qu'on s'est assis, dit, Roland, la technique, ça va être ce qui était tambour, la vie, bien la vie sur le colasol. Donc ma décision me suspendue. Je m'étais assis, j'étais encore en train de préparer mes effets, placé à gauche, à droite, 15 000. L'aîné est allé intervenir. Tout le monde a résisté à son intervention. Il s'est levé, il dit à la biseau tout bimi, puis il retourné vers la dalle au téléman habito que nous appelons. L'andagaï. Moi-même, je me disais, naïe ou apiawa. N'akane sa gnaïe lola. Prévenir les débutants sur certaines choses. Enfin, que comme je dis, lorsqu'elles arrivent, qu'ils ne soient pas surpris. Dans 2 Pierre, au chapitre 4, au verset 12, l'apôtre est en train de rassurer un groupe de personnes qui n'arrivent pas à comprendre un chemin par lequel ils sont en train de passer. Écoutez ce qu'il leur dit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Et ils trouvent ça étrange, ils sont surpris. Est-ce qu'on devait vivre cela? Mais si on est prévenu d'avance, si David avait été prévenu que celui pour qui il s'est battu, celui pour qui il a été prêt à sacrifier sa vie, pouvait demain devenir son ennemi et commencer à vouloir sa mort, il n'allait pas être choqué. David est étonné. S'il est encore roi, c'est à cause de moi. Sinon, nous tous nous serons devenus esclaves des Philistins. Mais voilà, il commence à lui lancer des flèches. Mais ce que j'aime, c'est que David avait simplement une spécialité. Il esquivait les flèches. Il ne les renvoyait jamais d'où ça venait. Troisième objectif, c'est rappeler aux anciens certaines choses en faisant revenir à leur mémoire des choses par lesquelles ils sont passés pour qu'ils en fassent des principes. Rappeler aux anciens certaines choses en faisant revenir à leur mémoire des choses par lesquelles ils sont passés pour qu'ils en fassent des principes. Mais non seulement qu'ils en fassent des principes, mais pour qu'ils deviennent des sources d'enrichissement pour les nouvelles générations. Ayant tellement vécu, accumulé, ils arrivent à dire waouh, ça se passe comme ça, et puis ils peuvent demain partager aux générations futures. Il est bon dans l'église, quand je parle de l'église, je ne vois pas seulement l'église locale, mais je vois l'église corps de Christ. Il est bon qu'il y ait des gens vers lesquels on peut courir ou recourir quand on passe par certains chemins et que l'on découvre des choses et qui peuvent vous rassurer et disent j'ai connu ça aussi. Voilà ce que l'on fait. Et là, j'aimerais encourager ces deux mouvements dans l'église. Qu'il y ait des jeunes qui vont vers les aînés quand ils ont des questions. Mais qu'il y ait aussi des aînés qui ont tellement d'expérience et du vécu qu'ils peuvent appeler les jeunes sans que des fois les jeunes les sollicitent. Aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes serviteurs de Dieu qui commencent le ministère en croyant tout connaître. Alors qu'ils ont à côté d'eux des personnes qui ont beaucoup de connaissances. Cela arrive souvent dans nos usines, dans nos grandes entreprises, quand vous travaillez, ce jeune homme qui a terminé à l'ISTA en ingénierat, il arrive, là on l'a embauché avec son grand diplôme, il pense qu'il connaît tout. Et ce vieux-là, les 2-4, quand il voit ce jeune homme arriver, qui prétend, il dit tout tiquier. Jusqu'à ce qu'un jour il arrive, la machine il bloque, il dit bah ça la kandengne, yolo baki oyebi, là que ça diplôme na yo. Il viendra seulement, il bouge un petit rien, il dit problème, il y a un bisilir, regarde. Et tu apprends qu'avec le diplôme, on ne connaît pas tout. C'est pour ça que j'aime les systèmes que les Américains ont. Les Américains ont un système, quand quelqu'un a une grande expérience, on lui donne les diplômes équivalents. Tu n'es pas forcément passé, tu n'as pas une licence, un doctorat, mais on estime que tu as tellement accumulé, on te donne ça, on dit, ça a même valeur académique. Parce que le vécu est une grande école. Dans Job au chapitre 8, de verset 8 au verset 10, Bildad parle à Job et j'aime les propos qu'il lui adresse. Il dit, interroge ceux des générations passées. Toi attentif à l'expérience de tes pères. Est-ce que toi et moi nous interrogeons les générations passées? Verset 9, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Waouh, j'aime ça. Une autre version dit, nous savons à peine. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Mais au verset 10, il dit, eux, ils t'instruiront. Ils tireront de leur cœur des préceptes. Ils prendront des choses qu'ils mettront à ta disposition. La version française courant dit du verset 10, mais eux peuvent t'instruire, ils pourront te dire ce qu'ils savent tirer de leur propre expérience. La version parole de vie dit, mais ceux qui ont vécu avant nous, ils te parleront de leur expérience, ils tireront des paroles de sagesse. Dans 1 Samuel au chapitre 19, verset 18, j'aime lorsque David rencontre certaines difficultés. Saül qui commence à les pourchasser, qui veut lui faire du mal. Alors qu'il passait la nuit avec sa femme, la fille de Saül, on a voulu les tuer. Dieu merci, il a été prévenu. On a dû placer un mannequin à la place. Il est déboussolé. Mais j'aime ce que la Bible dit. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Mais j'aime ce que la Bible dit. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Toi, quand ça chauffe, tu te rends chez qui? Ah, je t'entends dire le Seigneur, mais à part le Seigneur, on doit avoir des gens vers lesquels on peut s'enfuir, poser des questions, présenter ses craintes. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama, et j'aime la suite. Il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. Combien c'est important. C'est pourquoi il est bon que ceux de l'ancienne génération se rappellent. Et que tiens, je prie que dans nos églises, il y ait des personnes qui soient comme des banques de données. Ils ont tellement, tellement, tellement de choses à faire. Prions aussi que nos hommes vivent suffisamment longtemps pour partager les expériences. J'ai médité un texte dernièrement qui m'a fait à la fois réfléchir, mais qui m'a fait du bien. J'ai vu comment Christ a eu à travailler. Christ s'est rendu compte qu'il y avait deux générations qui étaient menacées. Et non seulement qu'il s'est occupé des deux générations, mais je suis étonné par l'ordre qu'il a utilisé pour résoudre les problèmes. Il faudrait d'abord s'occuper de la vieille génération, celle qui a appelé à communiquer des choses, et puis s'est occupé de la nouvelle génération après. Quand nous lisons Marc au chapitre 5, du verset 21 jusqu'au verset 43, nous voyons deux générations être menacées. Bizarre, on ne s'est pas souvent rendu compte, mais dans ces récits, il y a le chiffre 12 qui revient. Deux fois. Un chef de synagogue vient plaider auprès de Jésus-Christ pour sa fille de 12 ans. À peine elle commence la vie. C'est la génération sur laquelle on compte, celle qui est appelée à remplacer. Mais alors que Christ était en train d'aller résoudre ce problème pour cette génération qui commençait, que le diable a voulu arrêter, parce que la Bible dit qu'elle était à l'extrême. À peine elle commence la vie et tout veut s'arrêter. Mais de l'autre côté aussi, il y avait une femme. Les commentateurs disent qu'elle devait avoir entre 45 et 50 ans. Elle aussi, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait. Même âge que la petite. D'un côté, il y avait celle qui commençait la vie que les diables voulaient arrêter. Mais de l'autre côté, il y avait une génération qui avait accumulé des expériences, qui devait normalement la transmettre à d'autres et que les diables voulaient arrêter afin que les générations qui allaient venir n'aient pas de personnes pour leur transmettre des choses. Et ce que j'aime, alors qu'on les pressait pour aller s'occuper de la génération qui commence, Christ s'est arrêté pour la génération qu'on voulait, mais pas qu'elle puisse transmettre. Elle a dit non, je m'arrête pour elle, parce que même si je guérissais l'autre, s'il n'y a pas cette génération, les autres n'auront rien. Et il s'est occupé des deux générations. C'est quand il a relevé celle qui avait la quarantaine, qu'il est allé s'occuper de celle qui avait 12 ans, en disant, ceux qui vont transmettre sont là, alors je ne vais pas aller m'occuper de ceux qui vont recevoir. Aide-moi à dire que nos générations vivent. Et nous avons vu une première réalité, si mes souvenirs sont bons, c'était le 15 juin. Et la première réalité attachée au ministère, nous avons dit que tout ministre de Dieu avait besoin d'approbation. C'est-à-dire d'une reconnaissance, d'une caution, d'une acceptation, d'une certification, certes de Dieu, mais aussi des hommes. La reconnaissance de l'existence d'un ministère qu'il a, mais aussi la reconnaissance d'un niveau suffisant pour l'exercer. Nous avons dit que l'approbation supposait quatre choses. L'approbation supposait premièrement un cadre où vous restez longtemps de manière constante et permanente pour qu'on vous observe. Pour qu'il y ait approbation, vous devez rester à un endroit où l'on vous observe, où l'on vous regarde. Deuxièmement, nous avons dit que pour qu'il y ait approbation, il doit y avoir une personne qui vous observe et qui émet des avis sur ce que vous êtes et sur ce que vous faites. Troisièmement, nous avons dit que pour qu'il y ait approbation, il doit y avoir du temps. On doit vous observer dans les temps. N'avons-nous pas mentionné quand Paul écrit à son fils dans la foi, il dit, ne lance pas rapidement des personnes comme des diacres, éprouve-les. Éprouve-les. Mais nous avons dit aussi concernant ces temps, il doit être ni trop peu, ni trop exagéré. Trop peu, on lance quelqu'un trop tôt, il peut se faire mal, et lui-même il fait mal à d'autres, mais trop tard aussi ça peut amener à l'impatience. À force d'attendre, on perd patience. Et quatrième chose attachée à l'approbation, c'était la reconnaissance et l'acceptation d'une autorité à laquelle on se soumet volontairement pour nous équiper et pour nous lancer. Parce que dans les ministères, on ne se lance pas, on est lancé. Et nous avons mentionné aussi trois vérités adressées aux jeunes dans les ministères. Nous avons dit aux jeunes dans les ministères ces trois choses. La première, on commence toujours par être serviteur de quelqu'un avant de devenir serviteur tout court. Les vrais premiers pas dans le ministère, on est d'abord serviteur de quelqu'un avant de devenir serviteur tout court. Dieu a dit, Christ a dit, si tu n'es pas fidèle dans les choses d'autrui, comment on te donnera ce qu'il y a à toi? Tu travailles dans ce qu'il y a à autrui. Tu donnes le meilleur de toi-même comme si c'était pour toi. Et nous avons dit que ce service auprès de quelqu'un demander deux choses, la dépendance et l'intimité. Et nous avons mentionné plusieurs choses concernant l'intimité, je ne vais pas y revenir. Mais deuxième chose que nous avons dit aux jeunes dans les ministères, que Dieu ne donne des serviteurs qu'à ceux qui ont été des serviteurs. Dieu ne donne des serviteurs qu'à ceux qui ont été des serviteurs. Dieu ne donne des enfants de qualité qu'à ceux qui ont été des enfants de qualité pour quelqu'un. Tu n'auras que les genres d'enfants que tu as été pour quelqu'un d'autre. Troisième des choses que nous avons mentionnées, nous avons dit que la loyauté est et devait être un critère incontournable dans notre relation avec notre supérieur. La loyauté. Ce matin, j'aimerais aborder le deuxième point. Je pense qu'on verra encore la séance prochaine. Qui sait peut-être encore l'autre séance? Cette deuxième réalité, c'est qu'il y a plusieurs manières de débuter le ministère. Il y a plusieurs manières de débuter le ministère. Tous nous sommes appelés un jour à nous lancer dans le ministère, à faire les premiers pas. Et là, j'aimerais que vous puissiez noter ces six principes qui vont nous servir de base pour continuer. Le premier principe, c'est que nous ne débutons pas tous les ministères de la même manière et au même moment. Tous nous lançons dans la réalité appelée ministère, mais nous ne le faisons pas de la même manière. Et surtout pas au même moment. C'est pourquoi ne soyez jamais pressés. À ceux de ma génération, ils sont déjà devenus pasteurs titulaires. Mais est-ce que Dieu veut aussi que tu les deviennes? Tu fais la compétition avec qui? Mathias faisait partie des 70, mais n'avait pas été choisi 3 années avant. Mais quand Judas Iscariote s'est mis de côté, 3 ans après, il est devenu ce que les autres étaient. 3 ans après, mais il est devenu quand même. Nous ne débutons pas tous de la même manière. Deuxième principe, c'est Dieu qui décide la manière dont nous débutons notre ministère. C'est Dieu qui décide. Et quand je dis Dieu décide, il peut le faire au travers ou derrière les hommes. Troisième principe aussi important que j'aimerais que vous puissiez noter, c'est que notre façon de débuter le ministère a tendance à influencer notre vision du ministère et surtout notre manière de gérer les générations futures. Ça, c'est la tendance. Notre façon de débuter le ministère a tendance à influencer notre vision du ministère et surtout notre façon de traiter les générations futures. Attends, on a bandé comme ça, on a $100, babi, prouver ministère. Mais non, il faut pas prouver. Mais si à l'époque, il n'y avait pas de moyens, on a dû les lancer tels quels. Si aujourd'hui, toi, tu as les moyens, il y a des gens qui nous mettent non pas à l'école de Dieu, mais à leur école. Et même Dieu est contre cette école. Mais ils estiment que les chemins par lesquels eux, ils sont passés, toi aussi, tu dois passer. Moi, je ne dois pas dire à mes filles, moi, j'étudiais sur la télé de Kalina et j'habitais l'Ozone. Si on a une école 100 fois, 98 fois, Naya, Namakolo. Deux fois, Naya, na engin mécanique, qui fout la foule. Si on a eu ça, Bayonis, Boko Matamu, tout gâté. Allez, Makolo! Allez, ma foule, foule, zong, abakoudanakati, pas transco. Transco, ils ont moins ling. C'était mon époque. C'est ce que Dieu a voulu pour moi. Alléluia. Les David ne doivent jamais obliger les Salomon à aller aussi faire les fous chez les Philistins. Un petit Salomon, il y a une royauté qui a été. Qui n'est pas autant de soi, il y a un Philistin petit. Qui est dans la caverne. Où est-ce qu'on a mis ça? Quatrième principe. Certains aiment la manière dont ils ont débuté, tandis que d'autres n'aiment pas. Mais c'est Dieu qui décide. Certains disent gloire à Dieu de la manière dont ils ont débuté. D'autres regardent et disent qu'est-ce que c'était dur. Cinquième principe, c'est que le problème n'est pas toujours comment nous débutons, mais comment nous nous comportons après. Quel que soit le début, même s'il est difficile, comment nous nous comportons après? Même si on te donne tout sur un piédestal, les moyens, et que tu te lances bien, mais comment tu vas gérer l'après? Le problème n'est pas toujours comment nous débutons, mais comment nous nous comportons après. Sixième principe, s'il est vrai que le début est influent, il ne détermine pas toujours la suite et la fin dans leur totalité. Si le début est influent, il ne détermine pas toujours la suite et la fin dans leur totalité. On peut commencer timidement et finir glorieusement. On peut commencer dans les difficultés et finir dans la grandeur. On peut aussi commencer dans la grandeur et finir dans le sens inverse. Alors, parmi les manières que Dieu permet que nous puissions débuter les ministères, ce matin, j'ai voulu mentionner deux manières. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore commencé, Dieu va te qualifier pour commencer de cette manière. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà commencé et qui pourra se retrouver dans cette manière de débuter. L'une des premières manières de commencer le ministère, c'est être un pionnier. Être un pionnier. C'est-à-dire débuter seul, sans moyens, sans repère ni référence. Lancé comme un soliste, sans support. Être pionnier n'est jamais facile. Les pionniers, s'ils ont plusieurs caractéristiques, il y a trois caractéristiques essentielles qui sont attachées aux pionniers. La première caractéristique des pionniers, c'est qu'ils n'ont pas de repères. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de signes ou de marques qui peuvent les aider à se situer. Pas de repères. Combien c'est dur d'être pionnier. Il manque des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Deuxième caractéristique des pionniers, c'est qu'autant ils n'ont pas de repères, mais autant ils deviendront des repères pour d'autres. C'est pour cela que j'aime dire à ceux que Dieu qualifie pour être pionnier,
Travaillez. Vous ne travaillez pas pour vous. Les gens viendront demain s'appuyer sur vous. J'ai dit, si Dieu te juge digne d'être celui qui va frayer un chemin pour les autres et suivre, fais-le. Autant ils n'ont pas de repères, ils deviendront des repères. Troisièmement, troisième caractéristique, les pionniers perdent beaucoup de temps. Car ils apprennent par tâtonnement. Là où les gens qui viennent après ont déjà des principes, ils ont ce que les anglophones appellent des guidelines. On fait comme ça, on arrive à ça. Les pionniers n'ont pas de repères. Les pionniers essayent, ils échouent, ils réessayent, ils s'améliorent, ils essayent de nouveau et ils savent, ah, on fait ça. Mais avant d'arriver à ça, ça leur a fallu 2-3 expériences et ils perdent beaucoup de temps. Et finalement, quand ils réussissent, ils établissent un principe. Ça ma responsabilité, quand Philadelphie a commencé, papa Honoré, j'ai eu des bishops. J'ai eu des prophètes. Quelqu'un est venu, moi je suis prophète scanner. Donc, Namon Aragnos. J'ai des bishops, prophètes, Milonios, beaucoup mes frères. Frère X, frère Y, pasteur Kagamoko, Ngaï Roland, Dalo. Et Sengote, bien Sengo. C'est pour cela que je bénis Dieu. Il y a deux personnes qui m'ont énormément aidé. C'est le pasteur Calé et le pasteur Dominique Ngoy. 3 mois avant que Philadelphie n'aille commencer, j'ai dit, on n'invente pas la roue. Quelles sont les erreurs que vous avez eu à faire? Je n'aimerais pas les commettre. Calé m'a dit, moi j'ai fait ça, ça, ça m'a coûté. Roland ne fait pas ça. Dominique m'a dit, attention à ça, attention à ça. Combien c'est bon d'avoir des gens qui ont des connaissances, qui les mettent à votre disposition. Vous savez, nous n'avons pas toujours besoin de commettre les mêmes erreurs pour arriver aux mêmes conclusions. Il y a d'autres qui les ont commises et qui les mettent à notre disposition. Nous pouvons les éviter. Mais les pionniers perdent beaucoup de temps car ils apprennent par tâtonnement. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 8, la Bible est parlant d'Abraham comme un pionnier. Dit que lors de sa vocation, il partit sans savoir où il allait. Voilà le problème des pionniers. Il partit sans savoir où il allait. Le plus bel exemple des pionniers dans la Bible a toujours été, et j'aime souvent enseigner sur cela, c'est Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils ont souffert, nos premiers parents? Nous, aujourd'hui, on sait ce que c'est être un parent. Et ils n'avaient aucun repère. Genèse 2, 28 dit, lorsque Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. Adam a dû regarder Ève et dit, ton habit multiplié, ça l'a rendu gagné. Toi et moi, on sait. Parce qu'avant eux, personne ne l'a fait. Ils ont dû souffrir. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut. Avant ça, Adam n'a jamais vu une femme enceinte. Nous, on sait que quand c'est comme ça, c'est ça. Il y a yébité. Adam, n'a pas supporté ce que l'on a été. Ce que l'on a été, esprit de division, au nom de Jésus. Ève a vu son ventre gonflé. Nous, aujourd'hui, on sait que ça dure 9 mois. Ève ne savait pas. C'est elle la première. Mais comme si vous m'avez tourné, c'est qu'il y a qui m'a tourné. Sans repère. Et puis, elle a commencé à sentir des contractions. Nous, on sait que ce sont des contractions, mais elle, pas de référence. J'essaie de m'imaginer, mon collaborateur, qui, paf, mon abîme. Cordon ombilical, tout ça, c'est le ronin. Tout le temps, quelqu'un dit peut-être, mais il y a 2 mois. Pour y éviter, sans référence. Sûrement un ange a dû leur dire, mais nous, aujourd'hui, c'est facile parce qu'on sait. Les gens sont passés par ces chemins Sans référence. Combien de temps Ève va-t-elle allaiter son enfant? Peut-être même à 4 ans. Quelqu'un a dit, c'est pourquoi Genèse 4, 1 a dit, il est Caïn, et puis quelques temps après Abel. Il a eu la naissance désirable. Référence exacte. Les temps, c'est la moussoussa, il y a Abel déjà, les canons. Pas de référence. Être pionnier, ce n'est pas facile. Il y a deux manières d'être pionnier dans les ministères. Première manière d'être pionnier, c'est Dieu qui vous envoie. C'est Dieu qui décide cela. Dans Josué chapitre 3, verset 4, lorsque Dieu envoie les enfants d'Israël, il leur dit, car vous n'avez point encore marché sur ces chemins. Il arrivera que Dieu vous enverra comme un pionnier sur un chemin où personne n'a marché avant et vous-même, vous n'avez jamais marché. Mais il y a une deuxième manière d'être pionnier, c'est par choix personnel. Je veux aller dans une direction. Je veux faire des choses que personne n'a eu à faire avant moi. Dans Romains chapitre 15, au verset 20, lorsque Paul se lance dans un ministère, écoutez ce qu'il dit. Je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de les bâtir sur le fondement de personne. Romains 15, 20. Lui-même décide d'être un pionnier. Il dit, tout le monde va à gauche. Non, moi j'irai à droite. J'aimerais aller dans une direction où personne n'est allé. Mais j'aime surtout ce qu'il dit. Je n'aimerais pas bâtir sur les fondements d'autrui. J'aimerais commencer à zéro. J'aimerais pas aller là où quelqu'un a placé déjà des choses et moi je viens. Non, je sais que ça sera dur d'être celui qui creuse les fondations, mais j'aimerais le faire. Que Dieu nous donne aussi des hommes suffisamment courageux et forts pour ne pas hésiter à être des pionniers. Mais j'aimerais aussi dire, si être pionnier contient des difficultés et des écueils, être pionnier est glorieux. Vous savez, car on ne se rappelle pas toujours des suivistes, mais on se rappelle toujours des pionniers. Il arrive qu'on oublie ceux qui sont venus après, mais on n'oublie jamais ceux qui ont tracé les chemins en premier. Jamais. Tout le monde connaît les pères fondateurs des États-Unis. Dans l'histoire des États-Unis, si je vous demande quel est le cinquième président, vous ne connaissez pas. Le sixième, vous ne connaissez pas. Mais si je vous dis qui est le premier, chacun dira George Washington. Des pionniers. Des gens qui ont osé, des gens qui ont cru, des gens qui sont allés de l'avant. Si Dieu te qualifie pour être pionnier, j'aimerais te dire, crois et fonce. Il y a presque toujours des monuments pour les pionniers. Autant ils souffrent et ils paient les prix forts, autant ils sont inoubliables. Être pionnier est une faveur. Faveur pour tracer les chemins pour les autres. Les pionniers souffrent pour que d'autres ne souffrent pas après eux. Les pionniers sont des semeurs, mais ils ne sont pas toujours des moissonneurs de ce qu'ils ont semé. Les pionniers quelquefois sèment, mais ils ont conscience qu'ils sèment pour les générations futures. Les pionniers sont représentés par ce que Christ a dit et que Dieu nous donne dans l'église du Congo. Des gens qui vivent cela. Dans Jean chapitre 4, verset 37, Christ dit, car en ceci, ce que l'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Nous, on aime le contraire. Nous, on aime celui qui sème, c'est celui qui moissonne aussi. Mais quand Dieu te fait un pionnier, il dit, toi, tu vas s'aimer, et d'autres moissonneront. La main, t'es baliambonga, il y a musique chrétienne. Mais d'autres aujourd'hui profitent de cette musique. Si Dieu décide que tu sois l'ouvrier de la première heure, vas-y. Il y a des choses que les Haïdi Nabal n'ont pas vues, mais que nous voyons. Il y a des choses que Makanzu n'a pas vues, mais que nous voyons. Et dans notre culture, on n'a pas l'habitude d'honorer les vieilles générations. J'ai suivi un documentaire qui m'a fait pleurer des heures et des heures aux États-Unis. Une dame qui était devenue une grande personnalité aux États-Unis a organisé une grande réunion. Et le thème de cette réunion, c'était « We sing your song ». nous chantons vos chants. Elle a réuni 50 femmes noires américaines. Elle a même appelé leurs enfants et les enfants des enfants. Elle dit, parce qu'aujourd'hui, moi, je pèse. Je suis valorisé. Mais elle dit, pour que j'arrive à être celle qui pèse aujourd'hui, d'autres ont essayé de tracer les chemins, mais ça a été dur. Et j'ai aimé l'illustration qu'elle a donnée. Elle a dit, c'est comme un roc. Quand quelqu'un vient avec un marteau, il frappe un coup, on ne voit rien, mais il y a fissure au milieu. Un deuxième coup, il n'y a rien. Et puis finalement, quelqu'un qui ne saura pas qu'il y a eu 9 coups qui ont été donnés, qui viendra donner le 10e coup, paf, et puis ça saute, il dit, qu'est-ce que je suis fort. Mais il ne sait pas qu'il profite de 9 coups pour lesquels on n'a pas vu les résultats. Nous tous, moi y compris, on aime être les 10e. Qui donne les coups fatals, qui donne les résultats. Mais Dieu peut décider que ce soit le premier. Qui donne les coups sans résultat, le 8e, le 9e. Si Dieu veut que je le sois, je le serai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. En 1985, Renard Bonquet s'est tenu au Malawi, dans la ville appelée Blantyre. Ce nom, c'est le nom du village natal de David Livingstone. Et il prêcha à cet endroit où il y avait plus de 100 000 personnes réunies pour écouter l'évangile. Et avant de commencer à prêcher, il a pleuré 10 minutes. Parce qu'il a retrouvé une feuille écrite de la main de David Livingstone en 1852. Où il disait, je suis comme un pêcheur à la ligne, je fais rentrer la ligne, mais aucun poisson ne vient. Il dit, là où moi je cherche des poissons, la ligne, je n'attrape pas. Dieu me dit, dans 100 ans, dans 150 ans, on attrapera les poissons au filet. Et puis il a écrit en bas, il dit, nous sommes les ouvriers de la première heure qui souffrons sans résultat. Mais vous, quand vous viendrez, vous profiterez de nos résultats. N'oubliez pas les ouvriers de la première heure. Donnons-nous un pays où on honore les pionniers, où on ne sait pas les oublier. Mais je dis, si Dieu décide que tu sois un pionnier, vas-y! Si Dieu décide que tu sois une pionnière dans quelques domaines, vas-y, fonce! Si quelqu'un croit, c'est là qui m'aide à dire amen.
Amen.
Il y a plusieurs manières de commencer. Les pionniers, des fois, n'ont rien entre les mains. Mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui te fait entrer par ce chemin. Paul aussi est un exemple de pionnier. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, du premier verset au verset 3e, la Bible nous montre l'instant où lui et Barnabas sont mis à part par le Saint-Esprit. Pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Avant eux, il n'y a jamais eu de missionnaire. Pas de référence. Ils ne savent pas comment se fait la mission. Comment on aborde les hommes d'une autre culture. Combien de temps reste-t-on dans une église pour l'établir? Pas de référence. Nous, aujourd'hui, on a des manuels de missiologie. On étudie l'anthropologie, la culture. Voilà comment il faut faire. Mais eux, ils allaient vers l'inconnu. Ils ne savaient pas. Comment établir une église et quand la laisser? Comment établir un contact à distance avec une église? Comment régler les problèmes de cette église quand on est loin? Faut-il recevoir, oui ou non, l'argent des églises qu'on a fondées? Comme je le disais, que des choses que nous connaissons aujourd'hui. Nous lisons dans des livres, participons à des conférences, à des conventions missionnaires, mais pour lesquelles Paul et Barnabas n'avaient pas de repères. Mais ils ont commencé. Donnons-nous des Paul et Barnabas qui commencent, et puis plus tard nous saurons, ok, quand tu as fondé les églises, après un certain temps, il faut revenir les visiter. Mais eux n'avaient pas ces repères. Ils ont dû les découvrir. Commence comment Dieu veut que tu commences. J'insiste, si Dieu veut faire de toi un pionnier, vas-y. Ne dis pas, Dieu fait avec moi comme les autres. Les autres ont eu des moyens, les autres ont été... Si Dieu veut que tu ailles seul, fonce. Deuxième manière de commencer... À part le fait d'être pionnier, c'est succéder à quelqu'un qui a réussi et qui a établi des bases solides. Que des gens qui commencent des ministères comme ça, premier grand poste, pasteur titulaire d'une église de 500, de 1000, de 3000, de 10 000. Succéder à quelqu'un qui a réussi et qui a établi des bases solides. La Bible nous donne plusieurs exemples, mais j'en ai retenu 4. Des personnes qui viennent après des grands, qui viennent après des personnes qui ont réussi. Premier exemple, c'est Josué. Josué 1, 1 à 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse a fait le plus difficile. Il a affronté Pharaon. Il a amené le peuple jusqu'à un certain point. Et puis, il laisse à Josué que c'est bon de profiter des efforts d'autrui. Que c'est bon de recevoir comme une passe en or de quelqu'un qui a fait les sales boulots, permettez-moi les termes. Deuxième exemple, de quelqu'un qui succède à quelqu'un qui est des grands, qui a établi des bases, c'est Salomon. 1 Roi chapitre 2, versets 10 à 12. David se coucha avec ses pères et il fit enterrer dans la ville de David. Les temps que David régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron. Il régna 7 ans et à Jérusalem 33 ans. Le verset 12 dit, Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Très affermi pourquoi? Parce que quelqu'un a fait tout le travail. Il a retrouvé un royaume épars, économiquement faible. En 40 ans, il en a fait un royaume fort économiquement, fort militairement. Et Salomon vient, il profite de cela, que c'est glorieux d'être Salomon. Qui succède à un David qui a tout fait. Troisième personne, troisième exemple, c'est Élisée. 2 Rois chapitre 2, versets 12 à 13, dit Élisée, regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il déchira en deux morceaux. Il a vu son père partir. Cet homme non seulement qui a fait un nom, mais cet homme aussi qui lui a donné un nom. J'en parlerai tout à l'heure quand je vais progresser. Qu'il y a des gens qui ne sont pas connus par eux-mêmes, mais qui sont connus parce qu'ils ont été à côté de quelqu'un. Je me souviens, je suis arrivé aux États-Unis il y a quelque temps. Une télévision m'a appelé pour m'interviewer. Pasteur Roland, on apprend ce qui se passe à Kinshasa, à Philadelphie. Quel est votre secret? On a appris qu'au premier culte, vous étiez à 1250 et maintenant vous avoisinez les 5000. Quel est votre secret? C'est le genre de questions que je n'aime pas. J'ai dit, je ne pense pas qu'il y a des secrets. Mais si secret il y a, je mentionnerai deux. Le premier, c'est la grâce de Dieu. Inexplicable. Je dois vous dire, je ne sais expliquer ce que je vois, je constate. Mais le deuxième secret que je leur ai dit, je leur ai dit, je n'ai pas commencé le ministère. Monsieur quiconque, quand on a mis des affiches, les gens ont vu Roland Dallo, ils savaient qui était Roland Dallo. Mais Roland Dallo n'était pas Roland Dallo par lui-même. Une église et un homme l'ont fait. J'étais un jeune dans la foi, je m'asseyais sur le banc. Et cet homme a commencé en 93 à me céder sa chair. Quand il me cédait la chair dimanche, je prêchais à 3-4 000 personnes. Mais deux heures après, 1 million de personnes me suivaient à la radio, à la télévision. On connaissait Roland Dallo. Je ne me suis pas fait moi-même. Je ne vais pas dire comme les Kinois et les musiciens, mais je peux quand même le dire. Yenda Sala Kengana Zala. Je ne le dis pas à la manière des musiciens. Je ne me suis pas fait moi-même. Dieu m'a fait au travers de quelqu'un. J'aime souvent dire que Dieu bénisse l'église de la Borne, que Dieu bénisse le feu Jacques-André Vernou, que Dieu bénisse sa famille. C'est ça. Quand on a vu des affiches, du reste, à certains endroits, on ne connaît pas mon nom. Quand on me voit, c'est moi, l'adjoint Vernon. On ne connaît même pas mon nom. Moussa Koutananga, c'est toi l'adjoint du blanc, là. Donnons-nous des Élisées qui reconnaissent que ce qu'ils sont, c'est à cause d'Élie. Si on avait mis simplement des affiches, il y aura premier culte de l'église de Philadelphie. L'homme de Dieu est Kimbilangu de Jean-Claude. Les gens regarderont Kimbilangu de Jean-Claude de Lannoy. À Outerabi. C'est parce qu'on a vu que c'est Roland, connu non pas par lui-même. Je ne dirai jamais assez merci au Seigneur pour les occasions que cet homme m'a données. Je n'ai jamais oublié en 2005, au mois de décembre, Sangomala, on l'invite pour la grande réunion de non pas premier dimanche du mois, au stade, le 31 décembre. C'est 15 jours avant, il dit, Dalo, je ne veux pas y aller. Et il m'a envoyé. Je me suis retrouvé plein d'émotions dans ces grands stades devant 80 000 personnes. Moi, le petit garçon qui a grandi à Lausanne, devant chez lui, il y avait un grand loubois. J'étais là devant 80 000 personnes. Et ça passait à la télé et ça allait partout. Ce n'est que normal. Il m'a donné un poids. Quatrième exemple, les personnes qui ont succédé à quelqu'un des grands, ce sont les 11 après l'enlèvement. Et Jésus-Christ a prié que Christ soit parti. Acte 1, verset 9. Et puis verset 12 à 14 dit, après avoir dit cela, il, c'est Jésus, fit enlever pendant qu'il regardait et une nouée les déroba à leurs yeux. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne dite des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à la chambre haute. Ils n'avaient pas de choix. Le poids était grand. Montant tout de succès à Baoba. Le verset 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Quelquefois, la manière de commencer, Dieu va permettre que vous preniez la place d'un grand. Quelqu'un qui a déjà tracé le chemin. Mais quand on succède à quelqu'un qui a déjà tracé le chemin, il y a d'un côté des avantages et de l'autre côté des désavantages. Les avantages qui s'attachent au fait de succéder à quelqu'un des grands qui a établi des bases. Premièrement, vous profitez de son nom que vous portez. On vous identifie à lui. La Bible parlant des disciples, on dit on les reconnut pour avoir été avec Jésus. On ne les a pas reconnus pour eux-mêmes. Je n'ai jamais oublié en 2002, le pasteur Vernon était invité à Libreville, grande convention des assemblées de Dieu. Et il ne pouvait pas aller, il m'a envoyé. J'arrive à Libreville, je n'ai jamais oublié, le pasteur Jude Ngoua m'a reçu, il m'a tenu à la main et dit, j'ai eu difficile à te recevoir. Parce qu'on attendait le grand Jacques-André Vernon. Mais je t'ai reçu à cause de lui. Si lui t'envoie, c'est qu'il y a quelque chose. Donc on ne m'a pas accepté à cause de moi. J'ai prêché 4 jours. Au 5e jour, quand je devais prendre l'avion, il dit, la prochaine fois on t'invite, mais cette fois-ci, on t'invite à cause de toi. À cause de ce qu'on a vu. Aide-moi à poser la question à ton voisin, tu portes le nom de qui? Un voisin dit, Marat, Nganga Moko, Nga Isa faux perso. Nga il faut perso. Nga mon ami ça là. Deuxième avantage qui s'attache au fait de succéder à quelqu'un, vous jouissez d'un crédit attaché à son travail et à sa réputation. Vous jouissez d'un crédit attaché à son travail et à sa réputation. Il y aura des portes qui s'ouvriront pour vous, non pas à cause de vous, mais à cause de lui. Troisième avantage, vous profiterez des bases qu'il a établies et vous n'aurez pas à refaire de fondations. Si quelqu'un aujourd'hui doit hériter du travail de l'église de la Borne, il va être assis sur la sueur de 20 ans. Je vois quand je suis venu à la Borne les premières fois, il n'y avait pas de modérateur. Le pasteur Vernon faisait lui-même la modération, l'exhortation, les communiqués. Il faisait les cantiques, conducteur de louanges. Et ce n'est qu'après des temps, quand il a commencé à former des gens, qu'il a commencé à faire confiance. Vous profiterez des bases que quelqu'un établit, l'organisation, le sens du sérieux, les rouages, ce qui lui a coûté. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 6, il dit, vous viendrez simplement arroser, mais là où quelqu'un d'autre a planté. J'aime souvent dire, c'est plus facile d'arroser que de planter. Planter, ça veut dire, tu enlèves d'abord les herbes, tu retournes la terre, tu qui fait des plates-bandes, mais au bimabibi.
Arroser, c'est facile. Que des arroseurs qui pensent qu'ils ont plus d'onction que celui qui a planté. Mais il y a aussi des désavantages. Et parmi les désavantages qui sont attachés au fait de succéder à quelqu'un et commencer le ministère comme ça, j'en ai mentionné quatre et puis je donnerai quelques conseils avant que je n'invite l'homme de Dieu, Papa Honoré, ainsi que le pasteur Mboumatom, ça vient nous conduire dans un petit moment où nous allons prier pour nous-mêmes et puis les uns pour les autres. Désavantage numéro un, vous allez souffrir de la comparaison. Quand vous accédez là où quelqu'un a établi des bases, a posé des fondements, vous allez souffrir de la comparaison. Ceux qui l'ont connu l'auront toujours comme référence et compareront ce que vous faites avec ce qu'il faisait. Deuxième désavantage, vous aurez presque l'obligation et la tendance à vouloir faire comme votre prédécesseur sans être lui. Je l'ai dit, si vous succédez à quelqu'un, gardez les fondements, les choses qu'il a, mais restez vous-même. Il y a eu et il y aura qu'un seul Jacques-André Vernon. Il ne faut jamais faire du Jacques-André Vernon sans être Vernon. Copiez les bonnes choses, gardez les bonnes choses, mais restez vous-même. J'ai vu des gens qui amènent les mimétismes juste à copier les tics. Tikala yomoro baba. Quelqu'un a rigolé fort là-bas. Restez vous-même. Gardez ce que vous pouvez garder. Troisième désavantage, difficulté à porter sa touche sans que l'on parle de trahison. Quand on succède à quelqu'un, on veut simplement bouger les choses. Tu es en train de renier notre père. Difficulté à porter sa touche sans que l'on parle de trahison, de déviation. Quatrième désavantage, difficulté des hommes à reconnaître vos réels mérites. Ils attribueront toujours ce que vous faites à l'héritage. Quand vous échouez, ils disent que c'est vous. Mais quand vous réussissez, ils diront toujours que vous réussissez à cause de ce que l'autre a fait. Mais si vous échouez, la défaite, on va bien vous l'attribuer. Tu n'étais pas à la hauteur. Et mon ami, et car ils ont trop mille coudées. Mais si tu réussis, même si ce sont tes efforts, on dira non. Donc si on me tourne planarati les lois, on va profiter dans mon pépinaillé. C'est pourquoi ceux qui succèdent aux grands et qui ont fini par réussir ont souvent trois options qui se présentent à eux. Premièrement, soit ils maintiennent les niveaux qu'ils ont trouvés. Les gens vont apprécier, mais comme je l'ai dit, ne vont pas beaucoup reconnaître vos mérites. Deuxièmement, soit vous échouez et les gens ennoblissent et vantent votre prédécesseur. Ah, nous avons un assouvi, bah tu vas c'est quoi? Nous avons dit là-bas la zone, mais fais pas ça, 69, papa tante, vous allez à Kawa. Premier culte dans 8 heures, mais 7 heures d'autorité. Na kigoma kuna. Ah, tu vois pas nabiso. Tu vois petit calaka ya kombo. Troisième scénario, soit ils réussissent et amènent l'œuvre plus loin. Alors on reconnaît leur mérite. Pour ceux qui suivent les médias aux États-Unis, il y a une grande famille, de génération en génération, c'était les hommes de Dieu. La famille Austin. Le père était une référence,
parmi les églises baptistes. Il a marqué sa nation et surtout leur état. Il a laissé une congrégation de 3 à 4 000. Et quelques temps avant qu'il ne meure, il avait un fils qui était brillant. C'est le choix de la succession. Faites-la avec Dieu, ne le faites pas avec des sentiments. Et celui qui aujourd'hui a la tête de Joël, la plupart des fois, il ne faisait que les chauffeurs du père. Et puis, il filmait. Mais le père avait déjà prié, Dieu lui avait dit que c'était lui. Et quand le père a senti que ce jour approchait, il a dit, c'est Joël qui va me remplacer. Ça fait du boucan à l'église. Ça fait du boucan même en famille. Vous savez, les gens qui ne sont pas choisis sont les premiers à vous critiquer. Et Joël a été placé. Ses premières prédications étaient moyennes. Et puis moins d'une année après, c'était le boom. Aujourd'hui, Joël Austin, son église ne se réunit pas dans une église. Ils ont dû acheter un stade. Un stade, s'il y a peu de gens, c'est 120 000 personnes. Et les gens voient le décalage. Papa, tu as une église, il y en a 3 000. Caméraman, il y en a chauffeur. Amis, bien, on a combien? 120 000. Là, les gens ne vont plus dire, t'es où, mon papa, papa? Oyo, yé. J'ai jamais oublié ce conseil que le feu Jacques-André Vernon m'a donné. J'ai rendu Nairobi. Il me dit, Roland, je vais te confier des responsabilités, mais tu viens dans un milieu de l'adversité. J'ai jamais oublié cette phrase. Il m'a dit, Roland, ton travail va t'imposer. Ferme la bouche. Théaka. Préparez ma thé avec sérieux, profondeur. Attends, je vais dire de deux manières. Si vous avez courage, je vais vous dire, mais tu en as quand même. Mais si vous avez courage, je vais vous dire, mais le plus important, c'est de dire, je vais vous dire, ou devant, je vais vous dire, fais ton travail. Papa, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais il y a un débat. On a profondeur dans le message qui a grec. Réussi. Et les gens reconnaîtront tes mérites. Alors, j'aimerais donner 5 conseils à ceux qui succèdent aux grands. Et puis, nous allons arrêter ce matin. 5 conseils à ceux qui succèdent aux grands. 5 conseils à ceux qui succèdent aux grands. Le premier conseil, ne cherchez jamais à effacer les traces ou la mémoire de votre prédécesseur. Parlez de lui. Reconnaissez son apport. Si un successeur ici peut m'aider à dire amen, amen. Ne cherchez jamais à effacer ses traces. Il y a des gens quand ils succèdent à quelqu'un, c'est comme s'ils veulent faire table rase. Ils pensent que s'ils partent de l'autre, eux ne vont pas exister. Vous savez, il y a quelquefois la possibilité d'exister soi-même en faisant exister l'autre. La vraie grandeur n'a pas peur de louer quelqu'un d'autre. Celui qui pense que pour devenir grand, il faut écraser les autres, n'est pas grand. Aide-moi à demander à ton voisin, c'est Yondi Marabatou. Tu n'es qu'au calme, Moutassou Kondima, nani, puis après sa réponse. Moutassou Kondima, Isanani. J'entends quelqu'un dire Gaïmogo, Gaïmogo. Chamon dit Marabot. Papa, on a dit, ah, bah, bon, on a dit, on a dit, on a dit. Deuxième conseil, reconnaissez que ce que vous avez est dû à celui qui vous a précédé. Reconnaissez que ce que vous avez et Dieu à celui qui vous a précédé. Jean chapitre 4, verset 38, Christ dira à ses disciples, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. J'aime la suite. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail, dans leur champ. D'autres ont travaillé. La version française courant dit, vous profitez du travail des autres. La version nouvelle Bible et seconde dit, vous êtes arrivés pour recueillir les fruits du travail des autres. La version parole de vie dit ceci, vous profitez des fatigues des autres. Aïe, aïe, aïe. La version de semeur dit, vous recueillez les fruits des labeurs des autres. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. Pardonnez-moi de le citer, il m'a tellement inspiré. Un jour dans son bureau, le feu pasteur Vernon me dit ces deux phrases que je n'ai jamais oubliées. Je l'ai dans mes deux calepins les plus importants. Il m'a dit, première des choses, Roland, si dans le ministère, tu souffres sans résultat, sache qu'après toi, des gens auront des résultats sans souffrir. Si tu souffres sans résultat, sache qu'après toi, des gens auront des résultats sans souffrir. Et puis il a dit une deuxième phrase, mais il dit, si tu arrives sur les champs et tu as des résultats sans souffrir, sois humble. Sache qu'avant toi, les gens ont souffert sans résultat. Et vous savez, les pionniers, ils souffrent des fois pour faire des choses. Et les pionniers, des fois, souffrent beaucoup pour lâcher. Lisez avec moi ces merveilleux passages. Vous savez, tout est dans la Bible. Hein? Ecclésiaste, chapitre 2, versets 18 à 21. Waouh! La première fois que j'ai découvert ça, j'ai dit, mais la Bible a tout. Écoutez ce que dit cet homme. J'ai haï tout le travail que je fais sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tous les fruits de ma sagesse sous le soleil. Ma boule n'a pas ignoré. Alors, il va profiter. Il dit au verset 20, j'en suis devenu à livrer mon cœur au désespoir. À cause de tout le travail que je fais sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Et laisse les produits de son travail à un homme qui s'en est point occupé. On dirait que Razoul est là vraiment. C'est pour ça qu'il faut reconnaître. Troisième chose, être conscient que l'on peut soit maintenir le fruit des efforts de l'autre, les annihiler ou les renforcer. Être conscient que l'on peut soit maintenir le fruit des efforts des autres, les annihiler ou les renforcer. En 90, Renard Bonquet est venu prêcher ici. Il prêchait à Sainte-Thérèse et il enseignait au palais du peuple. Je n'ai jamais oublié cette illustration qu'il a donnée l'avant-dernier jour. Il a dit, les ministères, c'est comme une course des relais. Ceux qui suivent les Jeux olympiques, les championnats du monde, relais 4 fois 100 mètres. En général, on a tendance à placer les meilleurs athlètes au début et à la fin. Mais il arrive comme ça, quelqu'un au début court. C'est une équipe de 4 personnes. Ce ne sera pas la victoire d'une personne, ce sera la victoire de 4. Quelqu'un court et il court, il gagne la distance par rapport aux autres et il passe les relais. Celui à qui l'on passe les relais, il a la possibilité de maintenir l'écart que l'autre a laissé. Ou s'il court mal, il annule non pas seulement ses efforts, mais il annule aussi les efforts des autres. Quand on te cède les relais, qu'est-ce que tu en fais? Je me redis comme Renard Bonquet a dit, citant ces passages d'Hébreux, il a dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Il dit, ceux qui ont couru avant nous, s'asseyent sur les gradins de la gloire et ils nous regardent. Leur cœur bat parce que notre course n'est pas notre course, c'est la leur. Ils disent, vont-ils capitaliser ce que nous avons fait ou vont-ils détruire cela? Et quand nous courons autant, ils s'élèvent et ils sont contents. Mais quand nous fautons, ils sont tristes. Ils disent, tous mes efforts ont été anéantis. Seigneur, aide-moi si je succède à quelqu'un de ne jamais annihiler ses efforts. Quatrième et avant-dernière chose, comme David, si vous succédez à quelqu'un, faites du bien à ses descendants et à ceux qui portent son nom. S'ils sont en vie, s'ils sont là, faites-leur du bien. 2 Samuel chapitre 9, verset 3. David est conscient que ce qu'il est devenu le doit à quelqu'un. Dès qu'il accède à la royauté, il dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alors, la rabbin à Philadelphie, dans 60, 80 ans, pasteur Ken, pasteur Atom Singat Rosalate. Moi, Priscilla. Moi, Rowana, et Rosengas, que nous avons 10 dollars. Bon, mais ça passe. Qu'est-ce que ça passe? Ah! Ma papa, je suis en train de faire papa Nangaï, papa, Zoua. Donc, nous sommes en train de faire papa, tu es en train de faire habiter. Ce que tu es en train de faire, vous allez bien. La culte n'a pas de dépendre de ma voie à après nous mission dans Philadelphie, nous sommes sur Élie. Élie pria et il n'y eut pas de pluie. Papa m'a dit, papa, Tom, ça dit, non, tu es dans le bureau, tu as besoin d'un ordinateur. Tu as foutu la mouille minervale. Écoute, un ordinateur. Dans 30 ans, on a l'air au Sengabi. Je suis à 100. Vous pouvez essayer de courir l'économie, il y a la précarité. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Cinquième et dernière chose, respectez les prédécesseurs, mais ne pas être aussi être inhibé à cause de leur accompli, de ce qu'ils ont accompli. Respectez les prédécesseurs et ne pas être inhibé à cause de ce qu'ils ont accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Moïse n'a pas faites, mais que Josué fera. Josué, tu n'es pas moindre parce que tu n'as pas fait ce que Moïse n'a pas fait. Moïse a fait sortir le peuple, Moïse a conduit, mais c'est Josué qui a organisé l'armée. C'est Josué qui a livré les batailles. C'est Josué qui a distribué les territoires. Respectez celui qui t'a précédé, mais ne pas être inhibé. Marque impose ta marque. Va dans cette direction que Dieu te donne et que rien ne puisse t'arrêter. Deux manières de commencer. Être pionnier et succéder à quelqu'un. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais lancer un double appel alors que les deux hommes de Dieu s'avancent. Les musiciens aussi reprennent place. J'aimerais d'abord le premier appel lancer. Y a-t-il des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a utilisés comme pionniers? Vous êtes lancés seuls, sans appui, sans effort, dans quelques activités et Dieu vous a soutenu. Et vous lui dites, Seigneur, je te dis merci. Tu as été là. Ça n'a pas été facile. Je suis allé dans ces directions sans repère. Je suis allé sans moyens. Je suis allé sans appui. Mais tu as été là. J'ai perdu beaucoup de temps, mais je te dis merci, tu as été là. Si telle est votre expérience, alors que les chants seront en train de jouer tout à l'heure, je vous demanderai de vous avancer. Mais deuxièmement aussi, j'aimerais demander à ceux qui sont en train de se lancer comme pionniers. Les autres se sont lancés et ils ont vu la main de Dieu, ils s'en réjouissent. Vous, vous êtes en train de vous lancer maintenant. C'est dur. Et là, je demanderai à ceux qui se sont lancés, qui ont réussi, ils se mettront ici devant en regardant vers la salle. Mais ceux qui sont en train de se lancer et pour qui c'est dur, ils viendront, ils se mettront à genoux. Enfin, que ceux qui ont été des pionniers, qui ont vu la main de Dieu, je crois à la transmission de l'onction, prie pour ceux qui se lancent comme pionniers, enfin que le Dieu qui a soutenu les pionniers qui ont réussi, soutienne aussi les pionniers qui sont en train de commencer. Deuxième appel que je me relançais. Tu as débuté le ministère et tu le commences en remplaçant quelqu'un des grands dans un département, dans un ministère, dans une église, dans une activité quelconque. Avant toi, il y a eu un grand qui a laissé des marques. Et des fois, tu te sens complexé. Et tu veux dire, Seigneur, toi qui as fait avec lui, fais aussi avec moi. Ce deuxième groupe viendra se mettre, non pas à genoux, mais se mettra derrière, juste de l'autre côté. Je prie que ces trois groupes s'avancent. Ceux qui ont été les pionniers et qui ont réussi, ils viendront se mettre debout ici, en levant les mains, en disant merci au Seigneur. Ceux qui sont en train de se lancer comme pionniers, et pour qui c'est dur, et ils viendront se mettre à genoux. Et nous allons tous ensemble prier pour eux, mais ceux qui ont réussi prieront aussi pour eux. Et troisièmement, ceux qui sont en train de succéder des grands, je ne sais pas dans un bureau, je ne sais pas moi dans quelle activité, cabinet d'avocat, je ne sais où, en train de succéder à quelqu'un des grands. Je prie aussi que ceux qui ont été des pionniers et qui ont vu la main de Dieu, qu'ils viennent ici devant Siana. Alléluia. Yahweh Yonde Mobikisi.
Mokendi Kolona.
Que les pionniers qui ont réussi viennent se mettre ici en regardant de l'autre côté. Est-ce que l'auditoire peut se lever? Lève-nous s'il vous plaît. Nazaré le capot pèse.
Nazaré le capot pèse.
C'est le sambo.
Yaka molimo.
celles, nous qui sommes restés.
Et mon gars, oh, moi je suis.